Chapitre 11. Derrière son sourire. L'inexactitude n'existe pas en photographie. Toutes les photos sont exactes. Aucune d'elles n'est la vérité. Richard Avedon. 1. Yves Dallanegra habitait une grande propriété sur les hauteurs de Billot. Avant de me pointer chez lui à l'improviste, j'avais appelé le numéro que m'avait communiqué Claude Angevin. Premier coup de bol, alors qu'il vivait 6 mois de l'année à Los Angeles, Dallanegra était actuellement sur la Côte d'Azur. Deuxième coup de bol, il savait exactement qui j'étais. Florence et Olivia, ces deux grandes filles que j'avais croisées au lycée, j'en avais un souvenir vague mais bien réel, lisaient mes romans et m'appréciaient. Il me proposa donc spontanément de passer le voir dans sa villa-atelier du chemin des Vignasses. « Attendez-vous à une surprise », m'avait prévenu Angevin. En consultant le site internet de Dallanegra, sa fiche Wikipédia et différents articles en ligne, j'avais compris que l'homme était devenu une véritable star dans le domaine de la photographie. Son parcours était aussi étonnant que singulier. Jusqu'à ses 45 ans, Dallanegra avait mené une vie de bon père de famille. Contrôleur de gestion dans une PME niçoise, il était resté marié 20 ans avec la même femme, Catherine, dont il avait eu 2 enfants. En 1995, la mort de sa mère provoque en lui un déclic qui le fait changer complètement de trajectoire. Dallanegra divorce, quitte son boulot et part à New York pour donner libre cours à sa passion, la photographie. Des années plus tard, dans un portrait de dernière page paru dans Libé, il confiait qu'il avait choisi à cette époque d'assumer son homosexualité. Les photos qu'il avait rendues célèbres étaient des nus qui penchaient ostensiblement vers l'esthétique d'Irving Penn et d'Helmut Newton. Puis, avec le temps, son travail était devenu plus personnel. Il ne photographiait plus désormais que des corps qui échappaient aux canons de beauté traditionnels. Femmes en fort surpoids ou de petite taille, modèles à la peau brûlée, personnes amputées, malades en plein programme de chimio. Des physiques singuliers que Dallanegra parvenait à sublimer. D'abord dubitatif, j'étais resté stupéfait par la force de son travail, qui n'avait rien de trash ni de tordu. On était plus proche des peintres de la tradition flamande que d'une campagne de pub politiquement correcte, vantant la diversité des corps. Très sophistiquées, avec une mise en scène inventive et un travail sur la lumière, ces images ressemblaient à des toiles classiques, qui vous projetaient dans un monde où la beauté côtoyait le plaisir, la volupté et l'allégresse. Je roulais au pas sur la petite route qui grimpait au milieu des oliviers et des murets de pierres sèches. Chaque nouveau plateau ouvrait la voie à un chemin encore plus étroit, qui desservait son lot d'habitations. Vieilles bastides rénovées, maisons plus contemporaines, lotissements de villas provençales construites dans les années 1970. Au détour d'un virage en épingle à cheveux, les oliviers aux troncs noueux et aux feuilles frémissantes s'effacèrent pour laisser la place à une sorte de palmeraie improbable, comme si on avait transplanté un bout de Marrakech en pleine Provence. Yves Dallanegra m'avait donné le code du portail. Je me garai devant l'ouvrage en fer forgé et parcourus à pied l'allée bordée de palmiers jusqu'à la demeure. Soudain, une masse fauve fondit sur moi en aboyant. Un berger d'Anatolie, énorme. J'avais une peur panique des chiens. À l'âge de 6 ans, lors de la fête d'anniversaire d'un copain, le bas rouge de la famille s'était brusquement jeté sur moi. Sans raison apparente, il m'avait attaqué au visage. J'avais failli perdre un œil dans l'affaire, et j'avais gardé de cet épisode, en plus d'une cicatrice en haut du nez, une crainte viscérale et démesurée des canidés.
« Du calme, Ulysse !»
Le gardien du domaine, un petit homme aux bras musculeux disproportionnés par rapport à son corps, apparut derrière le molosse. Il portait une marinière et une casquette de capitaine à la Popeye.
« Gentil, le chien !»
lança-t-il en haussant le ton. Poils courts, tête large, haut de 80 cm, le kangal me défiait du regard, me dissuadant d'aller plus loin. Il devait sentir mon appréhension.
« Je viens voir Monsieur Dallanegra, » expliquai-je au gardien. « C'est lui qui m'a donné le code du portail. »
L'homme était tout disposé à me croire, mais Ulysse avait déjà attrapé le bas de mon pantalon. Je ne pus réprimer un cri qui força le gardien à intervenir et à se bagarrer à main nue avec le chien pour lui faire lâcher prise.
« Dégage, Ulysse !»
Un peu dépité, Popeye se confondit en excuses.
Je sais pas ce qui lui prend, mais il est affectueux comme un gros nounours d'habitude. Ça doit être une odeur que vous portez sur vous.
L'odeur de la peur, pensais-je en reprenant mon chemin. Le photographe s'était fait construire une maison originale, une californienne en forme de L, édifiée avec des blocs de béton translucides. Une grande piscine à débordement offrait une vue fascinante sur le village et la colline de Bio. Depuis les baies vitrées entr'ouvertes, s'élevait un duo d'opéra, l'air le plus célèbre de l'acte 2 du Chevalier à la Rose de Richard Strauss. Étrangement, la porte d'entrée n'avait pas de sonnette. Je frappai, mais n'obtins aucune réponse tellement la musique était forte. À la mode du Sud, je fis le tour par le jardin pour me rapprocher de la source musicale. Dalla Negra m'aperçut à travers la vitre et d'un geste de la main, me fit signe d'entrer par l'une des larges fenêtres. Le photographe terminait une séance de travail. Sa maison n'était qu'un immense loft transformé en studio de photos. Derrière son objectif, un modèle était en train de se rhabiller. Une beauté ronde que l'artiste venait d'immortaliser. Je le devinais aux accessoires de mise en scène, dans la pose de la Mara nue, le chef-d'œuvre de Goya. J'avais lu quelque part que c'était la dernière marotte de l'artiste, reproduire des œuvres de maître avec des modèles corpulents. Le décor était kitsch, mais pas malsain. Un grand canapé de velours vert, des coussins douillets, des voiles dentelées, des draps vaporeux qui donnaient l'impression d'écumer comme du bain moussant. Dalla Negra me tutoya d'entrée.
« How are you, Thomas? Come on.
Tu peux venir, on a fini. » Physiquement, il ressemblait au Christ. Ou plutôt, pour rester dans la comparaison picturale, à un autoportrait d'Albrecht Dürer. Des cheveux ondulés qui lui tombaient jusqu'aux épaules, un visage symétrique et émacié, une barbe courte bien taillée, des yeux fixes et cernés. Côté vestimentaire, c'était autre chose avec son jean brodé, son gilet de trappeur à franges et ses Santiago coupés à la cheville.
« J'ai rien compris de ce que tu m'as expliqué au téléphone. Je suis entré de L.A. hier soir et je suis complètement décalqué. »
Il m'invita à m'asseoir au bout d'une grande table en bois brut pendant qu'il prenait congé de son modèle. En regardant les photos affichées un peu partout, je pris soudain conscience que les hommes n'existaient pas dans l'œuvre de Dalla Negra. Niés, rayés de la carte, ils avaient fait place nette pour permettre aux femmes d'évoluer dans un monde délivré du mal. Lorsqu'il revint vers moi, le photographe évoqua d'abord ses filles, puis une actrice qui avait joué dans l'adaptation cinématographique d'un de mes romans et qu'il avait déjà immortalisé. Quand ses sujets furent épuisés, il demanda « Dis-moi ce que je peux faire pour toi. » 2.
C'est moi qui ai pris cette photo, of course, reconnut Dalla Negra.
J'étais allé directement au sujet, puisqu'il semblait disposé à m'aider, et lui avait montré la couverture du livre de Pianelli. Il m'arracha presque l'ouvrage des mains et examina le cliché comme s'il ne l'avait pas vu depuis des années.
C'était le jour du bal de promo, c'est ça?
Plutôt un bal de fin d'année, à la mi-décembre 1992. Il acquiesça.
À l'époque, je m'occupais du club photo du lycée. Je devais être dans les locaux et j'étais passé en coup de vent pour prendre des clichés de Florence et d'Olivia. Et puis je me suis pris au jeu et j'ai shooté à droite à gauche. Mais ce n'est que quelques semaines plus tard, lorsqu'on a commencé à parler de la fugue de cette fille et de son prof, que j'ai pensé à développer mon travail. Cette image faisait partie de la première série que j'ai tirée. Je l'ai proposée à Nice Matin, qui l'a achetée, illico. Mais elle est recadrée, n'est-ce pas?
Il plissa les yeux.
C'est vrai, t'as l'œil. J'ai dû isoler les deux protagonistes pour accentuer l'intensité de la composition.
Vous avez conservé l'original?
J'ai fait numériser tous les clichés que j'ai pris en argentique depuis 1974,
déclara-t-il. J'ai cru que j'étais en veine avant de le voir grimacer.
Tout est stocké quelque part sur un serveur ou sur le cloud, comme ils disent aujourd'hui, mais je ne sais pas vraiment comment y accéder.
Devant mon désarroi, il me proposa d'appeler son assistante par Skype à Los Angeles. Sur l'écran de son ordinateur apparut le visage d'une jeune japonaise, encore pas tout à fait réveillée.
« Salut Yoko, tu peux me rendre un service ?»
Avec ses longues couettes bleu turquoise, son chemisier blanc immaculé et sa cravate d'écolière, elle ressemblait à une cosplayeuse sur le point de se rendre à une convention. Dalla Negra lui expliqua précisément ce qu'il cherchait et Yuko promit de revenir vers nous très vite. Après avoir raccroché, le photographe se rendit derrière le comptoir en pierre de la cuisine et attrapa un mixeur pour se préparer une boisson. Dans le bol en verre,
il rassembla des épinards, des morceaux de banane et du lait de coco. 30 secondes plus tard, il versa un smoothie verdâtre dans deux grands verres.
« Goûte-moi ça !»
dit-il en me rejoignant.
« C'est très bon pour la peau et l'estomac. Vous n'avez pas un whisky, plutôt ?»«
Désolé, j'ai arrêté de picoler il y a 20 ans. » Il avala la moitié de son breuvage avant de revenir à Vinca.
Cette fille, c'était pas la peine d'être un as pour la prendre en photo, lança-t-il en posant son verre à côté de son ordinateur. Tu appuyais sur le bouton, puis quand tu développais, c'était encore mieux que la réalité. J'ai rarement vu quelqu'un avec une grâce pareille.
Ses propos me firent tiquer. Dalla Negra parlait comme s'il avait photographié Vinca plusieurs fois.
C'est bien le cas,
affirma-t-il lorsque je l'interrogeai. Devant mon trouble, il me raconta un épisode que j'ignorais.
2 ou 3 mois avant sa disparition, Vinca m'avait demandé de la prendre en photo. Je pensais qu'elle voulait se constituer un book pour faire du mannequinat, comme certaines des copines de mes filles. Mais elle a fini par m'avouer que c'était des clichés destinés à son mec.
Il s'empara de la souris et se mit à cliquer sur le bouton pour ouvrir le navigateur.
On a fait 2 séances vraiment très réussies, des tirages soft mais glamour.
Ces photos, vous les avez gardées ?
Non, ça faisait partie du deal et je n'ai pas insisté, mais ce qui est étrange, c'est qu'elles sont réapparues sur le net il y a quelques semaines.
Il tourna son écran vers moi. Il s'était connecté au compte Instagram des Hétérodites, la sororité féministe de Saint-Ex qui vouait un culte à Vinca. Sur leur page, les jeunes femmes avaient mis en ligne la 20aine de photographies dont venait de me parler Dalla Negra. Comment se sont-elles procurées ces images ? Le photographe balaya l'air avec ses mains.
Mon agent les a jointes pour des problèmes de copyright. Elles prétendent les avoir simplement reçues par mail de la part d'un expéditeur inconnu.
Je détaillai les clichés inédits avec une certaine émotion. C'était une véritable ode à la beauté. On y trouvait tout ce qui faisait le charme de Vinca. Rien chez elle n'était parfait. La singularité de sa beauté résidait dans l'assemblage de toutes ces petites imperfections qui finissaient par constituer un ensemble gracieux et équilibré, validant le vieil adage que le tout n'est jamais la somme des parties. Derrière son sourire, derrière le masque teinté d'une légère arrogance, je devinais une souffrance que je n'avais pas perçue à l'époque. Tout au moins une insécurité qui me confirmait ce que j'avais expérimenté plus tard en côtoyant d'autres femmes. La beauté était aussi une expérience intellectuelle. Un pouvoir fragile, dont on ne savait parfois plus très bien si on était en train de l'exercer ou de le subir.
Par la suite, reprit Dalla Negra, Vinca m'a demandé des trucs beaucoup plus trash, limite porno. Là, j'ai refusé parce que j'avais l'impression que c'était une volonté de son mec, mais qu'elle n'en avait pas vraiment envie.
Son mec, c'était qui ? Alexis Clément ?
J'imagine. Aujourd'hui, ça paraît banal, mais à l'époque, ça craignait un peu. Je ne voulais pas entrer là-dedans, d'autant que...
Il laissa sa phrase en suspens pour chercher ses mots. D'autant que quoi ?
Ce n'est pas facile à expliquer. Un jour, Vinca était rayonnante et le lendemain, elle semblait abattue ou défoncée. Elle ne me paraissait pas stable du tout. Et puis, il y a une autre de ses demandes qui m'avait refroidi. Elle m'avait proposé de la suivre en me planquant pour faire des photos qui auraient servi à faire chanter un mec plus âgé. C'était glauque et surtout...
Un son cristallin annonça l'arrivée d'un mail et interrompit Dalla Negra.
« Ah, c'est Yuko !»
dit-il en jetant un coup d'œil à l'ordinateur. Il cliqua pour ouvrir le message qui contenait une 50aine de photos du bal de fin d'année. Il chaussa ses demi-lunes et retrouva rapidement la fameuse image de Vinca et d'Alexis Clément en train de danser. Rafa avait vu juste. La photo avait bien été recadrée. Une fois dézoomé, le cliché prenait une autre signification. Vinca et Clément ne dansaient pas ensemble. Vinca dansait seul en regardant quelqu'un d'autre. Un homme qui n'apparaissait que de dos, une forme floue au premier plan. Merde !
Qu'est-ce que tu cherches exactement ?
Votre photo est mensongère.
Comme toutes les photos,
répondit-il, placide. C'est bon, ne jouez pas sur les mots. Je pris un crayon à papier qui traînait sur le bureau et désignai la masse informe et voilée. Je voudrais identifier le mec, là. Il a peut-être un rapport avec la disparition de Vinca.
Regardons les autres images,
proposa-t-il. Je rapprochai ma chaise de l'écran et me collai au photographe pour visionner avec lui les différentes poses. Dalla Negra avait surtout photographié ses filles, mais sur certains clichés, on pouvait apercevoir d'autres participants. Ici, le visage de Maxime, là, celui de Fanny, la bande des élèves dont j'avais croisé ce matin même quelques membres, Éric Lafitte, Régis c'est un con, la brillante Cathy Lano, moi-même j'apparaissais sur une photo alors que je ne gardais aucun souvenir de cette soirée-là. Pas très à l'aise, regard un peu ailleurs avec mon éternelle chemise bleu ciel et ma veste de blazer. Le groupe des profs, toujours dans la même configuration. La brochette de salaud qui restait bien groupée pour se tenir chaud. Ndong, le prof de maths sadique, qui prenait un malin plaisir à torturer les élèves au tableau. Lehmann, le prof de physique maniaco-dépressif. Et la plus perverse, la Fontana, incapable de se faire respecter pendant les cours, mais qui réglait ses comptes de façon très cruelle lors des conseils de classe. De l'autre côté, les enseignants plus humains. Mademoiselle Deville, la belle prof de littérature anglaise des classes prépa, connue pour sa répartie extraordinaire. D'une citation de Shakespeare ou d'Épictète, elle pouvait clouer le bec de n'importe quel fâcheux. Et Monsieur Graff, mon ancien mentor, le professeur de français génial que j'avais eu en seconde et en première. « Bordel, on ne voit jamais le contre-champ !» m'énervais-je en arrivant à la fin de la liste de photos. Je savais que je venais de passer à deux doigts d'une révélation capitale.
« C'est vrai, c'est rageant !»
admit Dalla Negra en terminant sa boisson. Je n'avais pas touché à la mienne, c'était au-dessus de mes forces. Dans la pièce, la luminosité avait diminué. Propice au jeu de lumière, le béton translucide transformait la maison en une sorte de bulle dans laquelle le moindre changement de clarté se répercutait en écho, animant les ombres légères qui flottaient comme des fantômes. Je remerciai malgré tout le photographe pour son aide et, avant de prendre congé, lui demandai s'il pouvait me transférer les clichés par mail, ce qu'il fit aussitôt.
« Vous savez si ce soir-là, quelqu'un d'autre que vous a pris des photos ?»
lançai-je depuis le seuil de la porte.
« Certains élèves, sans doute, »
hasarda-t-il.
« Mais c'était avant l'arrivée des appareils numériques, on économisait la pellicule en ce temps-là. »
En ce temps-là. Cette dernière expression résonna dans le silence du salon cathédral et nous fila, à lui comme à moi, un horrible coup de vieux.